À Kinshasa, il est 19h15, c'est l'heure du dialogue entre Congolais à la présentation de Jean-Claude Soumba-Kamanga.
Bonsoir. L'Assemblée nationale rwandaise recommande la prolongation de la mission des troupes rwandaises présentes au Nord Kivu dans le cadre des opérations contre les FDLR. Les députés nationaux rwandais, cités par le quotidien rwandais New Times, l'ont dit hier mardi à l'issue d'une séance avec leur ministre de la Défense, le général Marcel Gatsinzi. Pourquoi cette demande de prolongation et comment la classe politique congolaise accueille-t-elle cette option du Parlement rwandais? Nous accueillons pour vous dans ce débat Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement central, Jean-Louis Ernest Kabiro, député national, élu du territoire de Beni au Nord Kivu, membre du parti politique RCD-KML, allié de la majorité présidentielle. Il est l'initiateur de la pétition pour une séance extraordinaire de l'Assemblée nationale sur la présence des troupes rwandaises au Nord Kivu. Nous vous avions annoncé le Mwami Cabaret, chef coutumier de Cabaret au Sud Kivu. Il s'est excusé car tous les chefs coutumiers des deux Kivu sont venus dans la capitale pour des rencontres avec les autorités centrales. Mais nous aurons à la place Cyprien Biringingwa, il est président de la société civile Sud Kivu. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
L'Assemblée nationale rwandaise opte pour la prolongation de la mission des troupes rwandaises présentes au Nord Kivu dans le cadre des opérations contre les FDLR. D'après le journal rwandais New Times, les députés nationaux rwandais l'ont dit hier mardi à l'issue d'une séance avec leur ministre de la Défense, le général Marcel Gatsinzi. Ces députés, selon la même source, déplorent le délai fixé pour la fin de cette opération conjointe FARDC armée rwandaise. Un délai qui, selon ces députés, ne permettrait pas la réussite de cette opération dénommée Umoja Wetu, traduisée notre unité. Voilà, détail avec Claude Kianza et Magali Kabale-Banza.
C'était au cours d'une rencontre avec le ministre rwandais de la Défense, Marcel Gatsinzi. Ce dernier était venu présenter le bilan de cette opération débutée depuis 3 semaines au Nord Kivu. Et selon lui, à ce jour, près de 90 membres des FDLR ont été tués. Plus ou moins 200 combattants et 2600 non-combattants se sont déjà rendus à la force conjointe RDC-Rwanda. Pour les députés nationaux rwandais, le temps initial fixé pour la fin de cette opération ne saurait garantir son succès total. Par ailleurs, toujours selon le patron de la défense rwandaise, depuis son lancement, l'opération militaire rwando-congolaise a détruit les principales bases de la rébellion hutu-rwandaise des FDLR dans leur quartier général dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Information rapportée aussi par Radio Rwanda citée par l'agence France Presse. Le quartier général des FDLR détruit au Nord Kivu a encore dit le ministre rwandais de la Défense comprimé, entre autres, un centre de formation des sous-officiers, une école d'officiers et une université. Enfin, le parlementaire rwandais a demandé aux populations des deux pays de soutenir cette opération, les appelant à ne pas écouter ceux qui les égarent, incluant des ONG internationales qui répandent le bruit selon lequel le Rwanda a envahi la RDC.
Voilà, merci Magali Kabale et M. Claude Kianza qui était dans les coulisses. Monsieur le ministre Lambert Mende, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous pensez de cette information qui émane du Parlement rwandais?
Bon, la première chose à dire, c'est que le Parlement rwandais adresse une requête au gouvernement rwandais. Il n'y a pas matière pour le gouvernement congolais de répondre à une question qui ne lui a pas été posée. En ce qui concerne le gouvernement congolais, les choses sont claires. La semaine dernière, il y a eu une évaluation avec le gouvernement rwandais et tous deux, nous sommes tombés d'accord qu'à la fin du mois de février, quel que soit l'état d'avancement du travail que nous avons débuté ensemble, les troupes rwandaises quitteraient la République démocratique du Congo et elles quitteront la République démocratique du Congo. Maintenant, on ne peut pas empêcher les membres du Parlement rwandais de trouver cela efficace ou pas efficace. Mmh. Et en tout état de cause, le Rwanda n'a effectué jusqu'à ce jour aucune démarche vis-à-vis du gouvernement congolais pour que nous soyons en mesure de réagir.
Voilà. Ernest Caviro, bonsoir.
Bonsoir, monsieur les journalistes.
Oui, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la démarche de vos collègues rwandais?
Cette démarche montre d'abord que nos collègues rwandais ont eu à échanger avec leur exécutif sur la question. Ils avaient eu déjà, avant que nous ne puissions savoir que l'opération aura lieu, ils avaient déjà autorisé cette opération. Il y avait le responsable de la question au niveau de la présidence qui était venu, et ils avaient autorisé l'opération. Et donc, il est normal qu'un organe pleinement informé puisse donner des justices à son exécutif. Et ce qui, peut-être, nous montre que nous aurions aussi intérêt à faire porter l'opération par une plus grande base, ce qui justifie bien entendu le fait que la représentation nationale puisse avoir aussi la même chance que celle du partenaire, et celle d'avoir des explications claires sur la question par un responsable exécutif, idée qui semble paraître comme hérétique en ces moments, comme vous le savez. Et donc, moi, je pense que la manière dont les Rwandais font la chose, de bien préparer, d'intégrer tout le monde, quand même, je montre que le Rwanda porte la chose. Nous ne pouvons que souhaiter que les rapports entre les deux pays soient bons. Et c'est pour cela que, comme tout le monde, quand tout le monde soutient quelque chose et la comprend, et que le pivot qui nous lie est clair, connu de tous, que nous pouvons aussi aller de l'avant. Quant au délai, je m'étais exprimé dans cette émission, bien avant j'avais dit que c'est dangereux de faire des timings fixes pour une question aussi importante. Car tant que, si par exemple l'armée rwandaise rentre trop tôt, et que maintenant ces gens, déjà échaudés par des opérations militaires, une partie de leurs combattants farouches resterait sur notre territoire, la question de fond, celle des combattants, des anciens génocidaires qui prennent en otage les personnes qui sont après des réunions maintenant, restera sans solution.
Oui, et donc on comprend que pour vous, vous saluez en fait la démarche du Parlement rwandais, en fait vous faites un peu allusion à les relations qu'il y a entre vous et le gouvernement sur cette question.
Non, je ne sais pas d'amalgame entre les relations. Je pense qu'il y a un problème de méthodologie. La méthodologie qui a été utilisée par le partenaire, qui visiblement s'était bien préparé et avait fait porter cela à toutes les institutions, fait qu'il travaille d'un coup sans qu'il y ait des ambiguïtés. Ici, on nous annonce une chose, on nous annonce des observateurs, on nous annonce des unités, des renseignements, et puis ça devient une fausse conjointe. Mais ici, on n'a pas eu le temps, quand on n'a pas voulu en discuter, quand quelqu'un dit qu'il ne sait pas, c'était tout de suite la diabolisation. Moi, je pense que ces méthodes-là n'ont pas permis le début, la manière dont ça a commencé, la mauvaise gestion de la communication à ce moment-là, a fait que vraiment, les gens n'ont pas eu le temps de porter. Mais quand il y a des résultats, nous avons maintenant le souci de voir qu'il n'y ait pas des petits défauts quelque part dans la suite. C'est pour ça que tout le monde comprenne.
Comprenne quoi?
Prenne la quintessence des textes qui nous lient au Rwanda dans cette affaire. Parce que c'est ça la question. Si il y a des questions qui se posent, l'accord de Lusaka, nous l'avons, l'accord avec les entreprises chinoises, nous l'avons. Oui. Mais pourquoi l'accord avec le voisin pour une si bonne chose, nous ne l'avons pas? Et demander même d'en discuter devient une raison d'être traité d'hérétique. C'est incompréhensible.
Oui, on reviendra parce que là, évidemment, vous touchez à un peu au sens de votre pétition. Nous avons aussi dans cette émission Cyprien Beringua. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, Cyprien Beringua, vous avez suivi le ministre Lambert Mende et Ernest Caviro. Votre point de vue sur l'option du Parlement rwandais sur l'opération conjointe en Nord-Kivu?
Oui, exactement. Nous, au niveau de la société civile Sud-Kivu, nous avions déjà examiné la question. Et nous pensons que le Parlement rwandais est tout à fait dans une démarche tout à fait rationnelle, parce que justement, nous savons très bien que cette question de rapatriement des FDLR, de l'Est de la République démocratique du Congo vers le Rwanda, est une question qui préoccupait le Rwanda déjà depuis 2004. Nous avons déjà sommes tombés sur quelques documents qui nous l'ont prouvé. Donc nous avons été donc surpris d'apprendre justement que c'est la démarche qui était déjà mise en route depuis quelques semaines. Et quand nous avons interrogé la littérature par rapport à la question, nous avons constaté que le Rwanda est dans cette démarche depuis quelques années. Et nous craignons justement que notre gouvernement s'y soit tout simplement introduit par, précipitation et avec peut-être la pression de la communauté internationale qui voudrait que le Rwanda et le Congo s'entendent, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais nous craignons effectivement que toute la démarche n'ait pas été savamment réfléchi au niveau de la RDC pour un peu à la même manière que le partenaire rwandais. Mais qu'à cela ne tienne, il n'est jamais tard pour mieux faire. Nous pensons que les institutions politiques nationales, le président de la République, le Parlement national, le Sénat et le gouvernement, qui sont des institutions au sommet, qui dirigent notre pays, devraient pouvoir privilégier l'entente, la collaboration, la sérénité et même la transparence dans la prise des initiatives sur des questions nationales très sensibles comme celle-là, afin de défendre efficacement les intérêts stratégiques nationaux des populations congolaises. Donc, il est très important que au niveau de la RDC et au regard de ce qui se passe au sommet de l'État, que rapidement cette question soit ramenée dans un cadre tout à fait rationnel, un débat interinstitutionnel afin que nous puissions regarder pratiquement dans le même temps, ce qui d'ailleurs pourrait rassurer les populations.
Merci.
Mais il est tout à fait normal que l'opération porte des résultats positifs
on
par là. Et pour nous, en ce qui concerne la question du retour d'FDLR est cruciale pour la pacification réelle de l'Est démocratique du Congo.
On y reviendra, Cyprien Béringuingwa, dans cette émission. Mais d'abord, monsieur le ministre Lambert Mende, voilà, il y a Cyprien Béringuingwa qui pense que la démarche du Parlement congolais, rwandais est rationnelle. Et il a peut-être l'impression que. Est-ce que c'est sous pression que la RDC a conclu cet accord avec le Rwanda?
Eh bien, s'il y a une pression sous laquelle le gouvernement a pu conclure, c'est effectivement la pression de la désolation, de la misère et des souffrances de notre peuple. Si un gouvernement ne réagit pas à ce type de pression, à quoi sert-il? Donc on ne peut pas aller chercher à l'étranger les pressions qui nous ont déterminés à agir le plus efficacement possible pour mettre fin à ces massacres qui décimaient nos populations. On n'a pas besoin que des étrangers viennent nous dire que nos populations souffrent, il faut que nous puissions prendre des initiatives. Je voudrais rappeler quand même à tous vos auditeurs, concernant ce que l'honorable a dit au sujet de la méthodologie, nous avons informé les institutions à travers leur président, mais nous les avons informés après le démarrage des opérations. Donc le Parlement a été informé. Lorsque nous mettons en œuvre la politique de la nation pour la défense ou d'autres matières, nous ne sommes pas tenus par la Constitution à solliciter un visa. Il n'y a pas une information préalable. Cette information préalable ne s'impose qu'en cas de proclamation d'état d'urgence ou proclamation de la guerre.
Oui, c'est quand même l'entrée.
Ni dans l'un, ni dans l'autre cas.
Monsieur le ministre, c'est quand même l'entrée des troupes étrangères sur le territoire.
Ce n'est pas l'état d'urgence, monsieur, ce n'est pas la proclamation de la guerre. Vous savez, le droit, c'est une science exacte lorsqu'il s'agit de l'appliquer. Vous ne pouvez pas me dire maintenant que vous voulez interpréter la Constitution. S'il n'y a pas eu état d'urgence, il n'y a pas eu proclamation de guerre. Cette armée qui est venue n'est pas venue pour nous faire la guerre. Donc, il s'agit d'une opération de police à laquelle nous avons invité une armée voisine dont les citoyens sont concernés par cette opération de police.
Voilà. Monsieur le ministre,
attendez, je voudrais finir avec les idées de l'honorable.
Oui.
Le gouvernement rwandais vient d'informer l'Assemblée nationale. L'honorable ne peut pas faire croire à vos auditeurs que c'est avant l'opération que le gouvernement vient d'informer. Cette opération a commencé il y a plus de 2 semaines, et c'est hier que l'Assemblée nationale rwandaise en a été informée. Donc il ne faut pas inverser les chronologies. Nous aussi, on a informé notre Assemblée nationale et notre Sénat lorsque le président les a reçus quelques jours seulement après le début des opérations et le président l'a dit. Donc, dans le comportement du gouvernement rwandais vis-à-vis de son Assemblée nationale et dans notre comportement, il y a eu une idée de privilégier l'efficacité. Je suis d'accord avec Cyprien qu'il faut faire appel à la sérénité, à la transparence, mais il s'agit d'une question de sécurité, il s'agit d'une question militaire. Et je suis assez étonné qu'il n'ait pas parlé de l'efficacité. Lorsqu'on veut rétablir la paix et la sécurité, c'est l'efficacité qui prime, c'est le résultat que l'on cherche. Et j'étais heureux que Cyprien constate que les populations commencent à être rassurées. Oui. Est-ce que ce n'est pas plus important que nos querelles entre chapelles politiques?
Oui, mais, monsieur le ministre, pour revenir justement à l'option de parlementaires rwandais, vous avez dit qu'ils ne vous ont pas encore, ils ne vous ont pas saisi, ils ont saisi leur gouvernement, et vous revenez sur le fait qu'à la fin de ce mois de février, les troupes rwandaises auront quitté le territoire congolais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la démarche des parlementaires rwandais est quand même justifiée s'il faut atteindre l'objectif, c'est-à-dire mettre fin à la présence des LR sur le territoire congolais?
Mais quel est l'objectif? Nous l'avons défini avec nos partenaires rwandais. L'objectif, c'est de briser l'échine de la capacité militaire de FDLR, Interahamwe et autres forces négatives rwandaises. Il faut être tout à fait naïf pour croire qu'une opération, même si elle est menée par tous les pays africains, peut arriver à une efficacité à 100%. Nous allons évaluer, il est possible que nous y arrivions à 80% lorsque nous envisageons ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Et nous estimons, nous en avons parlé avec nos partenaires rwandais, à Rubavu, c'est le nouveau nom de Gisenyi maintenant, nous avons estimé que cette opération qui s'appelle Umoja Wetu peut, si elle est menée à bonne fin pour à une proportion de 80%, les 20% qui restent peuvent être conduites par les FARDC et la MONUC. C'est ainsi que nous avons convenu, et donc les amis du Parlement au Rwanda peuvent avoir un autre point de vue. Nous respectons ce point de vue, mais ce que les deux gouvernements ont décidé, c'est autre chose. Nous pensons qu'effectivement, lorsqu'on a brisé ce quartier général, lorsqu'on a déjà obtenu le rapatriement volontaire de plusieurs d'entre eux, lorsqu'on aura réduit autant que possible les forces résiduelles qui continuent à faire de l'extrémisme, il restera quelque chose à faire, mais qui pourra être fait par le FARDC et la MONUC. C'est comme ça que nous estimons que fin février, ils peuvent rentrer et qu'il n'y aura pas nécessairement un sabotage ou un échec de l'opération à cause de ça.
Oui, on va revenir tout à l'heure au bilan, mais d'abord, Ernest Cavour, votre réaction.
C'est une affaire extrêmement importante qui a été traitée par deux États et je suis surpris qu'il n'y ait personne qui puisse, quand on en discute, ne puisse que disposer de la base. Quel est le texte qui a été signé? On nous dit qu'on nous a informés, mais les informations qu'on nous donnait étaient un berceau à roulettes. On nous a d'abord parlé des observateurs. Oui, c'était des unités de renseignement. Oui, c'était des unités d'observateurs. Monsieur le ministre Semende a même dit qu'on travaillait avec la MONUC, et la MONUC a même, dans un premier temps, démenti.
C'est
ces choses-là. Non,
mais,
écoutez,
mais
maintenant, ce sont les forces conjointes, et nous voyons bien la MONUC impliquée, Dieu soit loué. Mais nous voudrions bien savoir quel était le cadre. Tout le monde soutient qu'il y ait une négociation. D'ailleurs, au départ, c'est le gouvernement qui ne parlait pas de négociation, de négocier avec Kunda.
Oui.
C'est nous, Assemblée, qui disions négociation. On ne nous dit pas aujourd'hui que c'est nous qui sommes contre la paix, parce que c'est nous qui avons commencé à parler de négociation, alors que lui, l'excellence Campbell même parlait de ne pas négocier avec Kunda, qui n'est représenté, il fallait parler avec le Rwanda. Et vous le savez.
Oui, mais...
Il a même dit, non, nous sommes en train de faire d'affaires très sérieuses. Maintenant, aujourd'hui, les Rwandais, ils en ont discuté avec leurs députés, les ministres sont venus, et l'échange s'est passé d'une manière tout à fait sereine.
Oui.
Et de cet échange, les députés rwandais ont demandé que l'opération se poursuive. Avec des raisons objectives, je venais de dire, on est en train de libérer les enfants, les femmes, les dépendants, tout ça, mais les forces combattantes du FDLR, qui ont les noyaux politiques, qui ont la quintessence militaire, doivent être détruites ou elles doivent être en tout cas amenées à rentrer au Rwanda. Sinon, le problème ne sera pas fini. Si on ne libère que les femmes, on ne libère que les enfants et une petite partie seulement des combattants, pour nous, nous allons continuer à penser que pour notre pays, il y a encore un problème et pour notre voisin, avec qui nous sommes en train de normaliser les relations, il y a encore un prétexte.
Oui, mais
parce que ça, c'est l'effort. Donc, oui, justement, parce que quand au niveau du Congo,
ouais.
on a des langages non seulement qui changent, mais qui ont tendance à être durs. Ouais. Au niveau du Congo, on a tendance à nous savons tout ce qui se passe autour de ces débats dans les institutions.
Oui,
moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire, pourquoi on ne veut pas discuter entre nous pour encore les résultats et éviter les contentieux futurs, parce qu'il y en a beaucoup de possibilités de contentieux futurs.
Oui, mais oui. Sinon, s'il vous plaît, en attendant de savoir si vous arriverez à vous entendre, parce que c'est le souhait de tout le monde. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de la prolongation, justement, de cette opération telle que souhaitée par les députés?
Je l'ai dit, c'est la troisième fois que j'ai dit sur Radio Okapi, de telles opérations, on poursuit d'abord l'efficacité, comme l'a si bien dit le ministre Lambert Mende. Et si nous voulons l'efficacité, si cette efficacité va demander un certain sacrifice en termes de temps, on va faire voir les pour et les contre. Si c'est trop de temps, par exemple, ça ne peut pas marcher. Mais si c'est un petit temps, mais qui est nécessaire pour qu'on termine, on gagne en efficacité, c'est peut-être le petit temps, que, plutôt que de mettre au frigo quelque chose qui va encore s'aggraver davantage dans les jours à venir. Si on veut terminer la question de FDLR, on la termine une fois pour toutes. C'est ça mon idée.
Le ministre dit que d'ici fin février, c'est possible que 80% du travail ait été fait.
Si cela se fait, Dieu sera loué. Parce que la question sera éradiquée. Mais si ça ne se fait pas, puisqu'il s'agit d'opérations militaires qui sont quand même tributaires d'un certain degré impondérable, à ce moment-là, il ne faudrait pas être trop dur. Il faudra savoir que si nous avons été choisi cette voie, allons-y jusqu'au bout. Comme ça, on va aussi discuter des autres affaires telles que nos ressources. Il y a beaucoup de choses. Parce que les gens qui ont fait les génocides au Rwanda ont été punis, ceux qui ont fait les génocides ici devront l'être aussi un jour.
Merci.
On devrait en parler.
Oui, Cyprien Beringingwa, vous êtes président de la société civile du Sud Kivu. Les opérations jusque-là se déroulent au niveau du Nord Kivu. Vous pensez qu'elles devraient se poursuivre éventuellement aussi au Sud Kivu?
Oui, évidemment, parce que, écoutez, dans les contextes de guerre tels que nous l'avons vécu, même un peu avant, le Nord Kivu et le Sud Kivu fonctionnent comme des bases communicantes. Donc, quelque chose qui se passe au Nord Kivu, que ce soit un fait social, politique ou économique, a toujours une incidence sur l'une ou l'autre province. Alors, il est très important que dans le cadre de la traque des FDLR, on puisse en tenir compte, parce que justement, le site qui vous crée, que les opérations menées dans le Nord Kivu puissent aboutir à un résultat tel que les FDLR qui opéraient dans le Nord Kivu puissent faire mouvement vers le Sud Kivu. Et dans ce cas, l'opération n'aura pas porté, parce que le Sud Kivu reste aussi le Congo, concerné dans le premier chef par cette opération. Donc, je ne crois pas que la date du 5 février est une date réaliste quand on considère la configuration géographique du Sud Kivu constitue essentiellement des forêts. Et sur sur 8 territoires de la province du Sud Kivu, 7 connaissent pratiquement la présence très remarquable des FDLR. Il n'y a que le territoire d'Ijoui qui ne connaît pas ce phénomène. Donc, je ne pense pas que le 5 février soit vraiment réaliste. Je voudrais que le ministre retienne franchement que la question de la date, ce n'est pas au Rwanda, dans un accord pris entre les deux pays, ce n'est pas il ne revient pas à une seule partie de pouvoir décider de la prolongation ou de l'arrêt. Je pense que les deux partenaires devraient encore se rencontrer pour évaluer la question et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire. Mais si c'est le Rwanda seulement qui décide, en tout cas, je crois que là, il y a vraiment vice de procédure et je pense qu'il faudrait que notre gouvernement soit davantage beaucoup plus vigilant, tel que nous l'avons d'ailleurs appelé dans notre déclaration du 22 janvier 2009.
Voilà. On va revenir à la question de l'évaluation, parce que le chef de l'État avait promis l'évaluation de cette opération. On va poser la question à M. le ministre, mais d'abord le temps de prendre les premières réactions de nos auditeurs. Il y a Michel qui nous écrit depuis Goma. Pour lui, cette position est encouragée, donc la position des parlementaires rwandais est encouragée, parce que le temps fixé au départ ne permettrait pas de mettre fin à la présence des FDLR qui violent et tuent la population à l'Est. Matena Zika Zika, Jean de Bandundu, refuse la prolongation de la présence des troupes rwandaises en RDC parce que, d'après lui, cet accord n'était signé que pour 21 jours. Il faut, d'après lui, le respecter. Osé Mugisa de Bukavu, dans le sud Kivu, estime que notre chef de l'État et son gouvernement doivent s'inspirer, voilà, du modèle des Rwandais. Chez nous, les députés ne sont pas concernés par cette opération, tandis qu'au Rwanda, ce sont les députés nationaux qui sont consultés, monsieur le ministre.
Moi, je crois que c'est un peu aller vite en besogne. Notre Assemblée nationale est d'abord en vacances parlementaires, donc il faut être réaliste. Si une situation sécuritaire se pose, on ne peut pas suspendre le cours de l'histoire, comme si nos ennemis pouvaient attendre que l'Assemblée nationale revienne de vacances. L'Assemblée nationale rwandaise est en session.
Est-ce que vous n'avez pas...
Au moins, c'est la bonne chose.
Est-ce que vous n'avez pas... Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que vous n'avez pas... Est-ce que le gouvernement congolais n'a pas choisi, justement, de mener cette opération pendant les vacances parlementaires? Comme ça, les députés ne sont pas associés, c'est facile, non?
C'est assez ridicule de penser cela, comme si le gouvernement congolais a demandé aux Interahamwe d'attaquer nos populations ou au CNDP d'être créé pour attendre que les gens aillent en vacances. Et en tout état de cause, le Rwanda a peut-être sa constitution, nous avons la nôtre. Et la nôtre dit que la politique de la nation est élaborée et mise en œuvre par le gouvernement qui en informe l'Assemblée. Okay. On ne dit pas qu'il faut en informer l'Assemblée avant coup, on peut l'informer aussi après, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes stratégiques et de sécurité. Oui. Puisque n'oubliez pas que lorsque nous informons l'Assemblée nationale, nous informons aussi tout le public, nous informons aussi les cibles de l'opération. Oui. Est-ce que c'est cela qu'on voulait? Oui. Donc pour des raisons d'efficacité, nous pouvons choisir le moment où nous informons et ce n'est pas ce qui fait que l'Assemblée nationale congolaise serait moins considérée que l'Assemblée rwandaise. Ça, oui, c'est réellement du révisionnisme. Pour qui connaît l'histoire de notre région ici, il n'y a pas deux assemblées qui jouissent d'une plus grande considération que l'Assemblée nationale congolaise. Oui. Ce n'est pas parce que cette information est venue après qu'il faut nous faire prendre des bécifs ou des lanternes. Nous avons une Assemblée nationale qui est au top niveau, contrairement à beaucoup d'autres assemblées nationales, je ne vais pas élaborer. Maintenant, j'ai entendu dire que nous changeons de langage. Je ne sais pas en quoi est-ce que nous changeons de langage, en quoi est-ce que ce que nous avons dit avant change par rapport à ce que nous disons maintenant. Nous avons une opération conjointe avec nos partenaires rwandais. On veut que le fait que l'Assemblée nationale ait été informée après coup devienne maintenant un élément qui dénature les choses, que cette région n'est plus rentrée sous le contrôle de notre gouvernement, de notre armée, parce qu'on a informé l'Assemblée nationale après que les camps de déplacés ne sont pas en train de se vider, que de 2 500 000 déplacés, on passe maintenant à 1 million de déplacés. Est-ce que tout cela n'est pas suffisamment positif pour qu'on puisse passer un peu sous le boisseau le fait qu'il y a un amour propre blessé chez certains de nos élus, ce que je comprends parfaitement. Donc, on ne peut pas discuter entre institutions à la radio.
Oui.
Nous avons entendu des responsables de l'Assemblée nationale passer à la radio alors que la porte de l'exécutif ne leur était pas fermée. Ce n'est pas une façon de discuter entre institutions.
Oui.
Nous voulons de l'efficacité et si on dit que le temps est contre l'efficacité,
oui,
je pense qu'il est bon de nous laisser juger. C'est nous qui menons les opérations. C'est les forces armées qui savent à quel danger ils ont à faire face. Si elles estiment que fin février, elles auront réduit 80% des capacités de nuisance de ces rebelles rwandais. Mais pourquoi est-ce qu'on doit en douter, comme si le principe chez nous, c'est de remettre toujours en cause ce qui vient des circuits officiels?
Oui, monsieur le ministre,
il faut être un peu optimiste.
Oui, monsieur le ministre, Lambert Mende, à quand l'évaluation de cette opération, finalement?
Mais l'évaluation a été faite la semaine passée. Vous avez suivi que le ministre Alexis Thambwe Mwamba était à Rubavu avec son homologue du gouvernement rwandais. Chacun était accompagné de tous les segments du gouvernement qui sont impliqués. L'armée, la police, la sécurité, les deux gouverneurs de province, Nord Kivu, Sud Kivu. C'est là où on a fait l'évaluation et qu'on a estimé que à au moins 60% des objectifs étaient atteints à la fin de la semaine passée, et que si on prenait d'ici la fin de février, on aura atteint 80%, et que donc à ce moment-là, nos invités pourraient rentrer chez eux et nous laisser finir le travail. L'évaluation a été faite et très bien faite, et nous avons considéré qu'il y a une extension de l'autorité de l'État. Vous avez suivi vous-même le porte-parole de la MONUC qui le disait. Je ne sais pas pourquoi on fait allusion à la communauté internationale pour nous condamner, mais on oublie que cette communauté internationale a fait un virage à 180 degrés pour approuver notre opération qui porte des fruits aujourd'hui.
Oui.
Je suis d'accord avec Cyprien que Nord Kivu, Sud Kivu,
oui,
c'est des vases communicants. Il a tout à fait raison.
Oui.
Mais je voudrais quand même lui rappeler qu'il y a un fort mouvement de désarmement volontaire des FDLR qui sont au Sud Kivu. Rien que par cet effet de dissuasion,
oui,
exerce l'opération. Et donc là aussi, l'opération, sans avoir nécessairement tiré des coups de feu au Sud Kivu, a déjà un impact positif.
Oui.
Et le travail peut être fini au Sud Kivu,
oui,
par notre armée et la MONUC, et c'est vers là que nous nous dirigeons.
Oui.
Donc fin février, c'est réaliste.
Okay.
Au vu des données qui sont à la possession de nos chefs militaires et de notre sécurité.
Voilà.
Donc, il faut être réaliste.
Oui.
Et nous pensons que,
oui,
pour la présence des Rwandais au Congo,
oui,
on peut
réellement
demander qu'ils partent fin février,
oui,
sans remettre en question la réussite de l'opération.
Oui.
Mais je suis d'accord avec lui pour dire que la traque des FDLR ne doit pas s'arrêter fin février.
Bien,
mais doit-elle être menée nécessairement aussi avec les Rwandais? Nous disons non.
Okay.
Nous pouvons la mener à ce niveau-là,
mais
on a brisé l'essentiel. On peut la mener par d'autres moyens, à partir de fin février et jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement.
Merci, monsieur le ministre. Évidemment, nous sommes encore avec vous dans cette émission. Je reviens, d'abord, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en cours que nous parlons bien de l'Assemblée nationale rwandaise qui a recommandé la prolongation de la mission des troupes rwandaises présentes au Nord Kivu dans le cadre des opérations contre les FDLR, et nous recevons le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement central, Lambert Mende, Ernest Kiaviro, député national, élu du territoire de Beni au Nord Kivu, et Cyprien Biringingwa, président de la société civile Sud Kivu. J'ai devant mes yeux justement le bilan qui a été donné par le ministre rwandais de la Défense, cité par le quotidien rwandais New Times. Il parle de près de 90 combattants FDLR tués, plus ou moins 200 combattants et 2600 non-combattants qui se sont rendus à la force conjointe RDC-Rwanda. Monsieur le ministre, je voudrais qu'en un mot, vous puissiez dire un mot justement sur ce bilan. Très rapidement, en un mot, parce qu'on doit donner la parole aux autres invités.
Le bilan est tout à fait réel. On a enregistré ces 89 morts. On a enregistré beaucoup d'adhésions volontaires au rapatriement volontaire. On a enregistré la destruction de ce centre qui était le signe de la colonisation de cette partie du Kivu par le FDLR, avec des universités, des centres d'excellence, etc. Donc pour nous, le bilan est tout à fait positif, parce que l'autorité de l'État se réinstalle, les barrières ont été levées, les populations circulent normalement, les camps de réfugiés et de déplacés se vident, les villages commencent timidement à se remplir. Nous pensons que les objectifs,
merci,
ont été à plus de 60% atteints.
Merci beaucoup. On va donner aussi la parole à Ernest Cavillon.
Oui, c'est bien que des déplacés restent chez eux, c'est bien que l'autorité de l'État soit rétablie, et c'est tellement bien que nous voulons tous améliorer ce qui est en train de se faire. C'est ce que j'ai dit depuis hier, ce que j'ai dit depuis toujours. Et si nous parlons d'améliorer, le fait d'impliquer le plus possible tous ceux qui sont concernés a toujours été positif. Et donc, un échange entre un ministre et un député à la radio n'est aucunement à considérer comme une dispute entre institutions. Je dois aussi dire que si nous voulons améliorer, il y a plein de choses à améliorer, à commencer par exemple par la communication. Vous voyez le bilan des choses qui se passent chez nous, que nous recevons la radio rwandaise. Ce sont là des petites choses qu'on peut améliorer si on en discute, par exemple. Parce que M. le ministre, heureusement, qui est avec nous dans le studio, n'a pas trouvé peut-être un peu étonnant que la population congolaise apprenne tous ces chiffres et que lui les confirme, dont lui aussi les avait, il ne nous les a pas donnés, il a laissé aux Rwandais le soin de nous informer. Et non, il y a beaucoup de petits éléments. L'autre élément, c'est par exemple la sympathie même envers les personnes qui sont affectées. Nous avons discuté avec le ministre Mende dans ce studio. Il m'a parlé des dégâts collatéraux l'autre jour. Mais même s'il y a un dégât, soit dit collatéral, l'autre problème que nous devons améliorer à ces opérations, c'est la réaction de l'État congolais quand il y a des citoyens qui sont affectés. Il y a eu un éboulement qui a tué 8 déplacés des guerres. Aucun mot dit.
Ça vous mélangez les
tous ceux tout ce qui dort au tuilé là-bas. Il n'y a pas un compte rendu de ces choses-là. Même nos vaillants combattants, parfois des officiers que nous perdons. Le gouvernement ne te dit pas, il n'y a pas un geste, quoi, pas une cérémonie. Donc, ce sont des choses, des petites choses qui montrent un certain manque de sympathie qui, pour dans les yeux de quelqu'un qui voit non. La terre s'est mobilisée pour Ingrid Betancourt. Le comportement de ces silences devant la souffrance est presque cynique. C'est cynique.
Voilà, le monsieur le ministre va vous répondre. D'abord, on donne la parole à Cyprien Biringingwa. Très rapidement, vous avez suivi le ministre qui a dit que les opérations pourraient se poursuivre. Parce que vous, tout à l'heure, vous faisiez allusion à la présence d'FDLR dans votre province. Le ministre a dit que l'opération pourrait bien se poursuivre même sans les Rwandais.
C'est-à-dire que en ce qui nous concerne, nous ne savons pas exactement comment les choses ont été planifiées, mais tout de suite là, le ministre, son Excellence Lambert Mende, disait que l'évaluation a déjà eu lieu et que c'est une évaluation qui était une évaluation concertée. Alors, d'où vient que maintenant l'Assemblée nationale rwandaise fasse une déclaration presque unilatérale qui risque d'être en contradiction avec justement l'affirmation du ministre. Nous avons demandé que si les choses ont été bien planifiées, c'est un accord entre deux pays, il est important qu'il n'y ait pas des affirmations ou des impositions presque unilatérales. Il est très important que notre gouvernement et le gouvernement rwandais puissent décider ensemble de la poursuite, de l'arrêt ou de cette opération.
Merci.
Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que en ce qui concerne le Sud Kivu, il est vrai que ces opérations peuvent se poursuivre sans l'ARDF. Et je crois qu'il y a par exemple déjà quelques voix qui se sont élevées au Sud Kivu. Je voudrais parler de Yakutumba, qui est un chef Maïmaï,
qui
a montré qu'effectivement, il y a quelques années, il avait demandé qu'il puisse traquer les FDLR, mais cela n'a pas été acquis au niveau du gouvernement. Donc, si on va mettre en place des mécanismes au niveau de notre armée, au niveau de notre police, de pouvoir continuer cette opération, c'est une bonne chose. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous voulons franchement que les FDLR puissent rentrer chez eux dans la tranquillité, dans toute la dignité, de manière à ce qu'il n'y ait aucune goutte de sang d'un Congolais qui soit versé, parce que les Congolais sont déjà morts en nombre très très important, et nous voulons que le gouvernement puisse mettre en place franchement des mécanismes de sécurisation des populations civiles qui habitent dans les zones sous contrôle FDLR.
Voilà, Cyprien Abessingingwa, nous allons d'abord donner la parole à Aurélie Moupapa qui vient de faire son entrée, c'est pour nous faire état des réactions des auditeurs. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir. Mimi Raphaël de Kamina
Okatanga pense que les délais qui étaient fixés par le président Joseph Kabila ne suffisent pas. Il faudrait qu'on accorde un temps supplémentaire à l'armée rwandaise dans les opérations conjointes FRDC et armée rwandaise au Nord Kivu. Ceci pour que le Rwanda ne trouve plus des prétextes de nous agresser à chaque fois qu'il y a mésentente. Quant à Ernest Kipapu de Moba, la prolongation des opérations reflète une faiblesse des troupes rwandaises face au FDLR et cela va créer une guerre meurtrière. Cette recommandation doit être traitée par le Parlement congolais, car du côté rwandais, elle a été traitée au Rwanda, estime Félix Dofri Lubumbashi au Katanga.
Et puis Achille Katembo.
Achille Katembo depuis Kimanja au Nord Kivu. Oui, depuis Kimanja au Nord Kivu. Salue la prolongation car d'après lui, la population de Kiwanja a retrouvé sa paix, que l'opposition cesse la distraction poursuit-il, car elle n'a pas perdu les siens au Nord Kivu. Notons que le jour du massacre de Kiwanja, cette opposition n'a élaboré aucune pétition.
Merci beaucoup Aurélie, mon papa. On a pris beaucoup de temps, on va revenir vers vous d'abord. Ernest Kaviro, très rapidement, hein, pour réagir à tous ces messages de nos auditeurs, très rapidement.
Mais moi, je pense que il est très important de comprendre là que les auditeurs ont en tête que les opérations se passent bien, mais qu'il faut qu'elles se terminent. C'est comme je le disais tout à l'heure, donc les auditeurs ont parlé exactement comme moi, parce que si aujourd'hui on a déploré des actions comme le massacre de Kiwanja, qui a fait que vraiment, les gens puissent être désolés, que ça puisse amener au processus de continuer. On peut considérer les gens de qui ont été tués à Kiwanja comme les martyrs. Alors, aujourd'hui, nous voulons qu'il n'y ait plus d'autres martyrs. Il faut absolument donner toutes les chances à cette opération de réussir, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait une autre, ou qu'elle dure trop longtemps. Donc, il faut absolument pour cela, je l'ai dit, que ce soit toute la communauté nationale qui porte ça comme un problème national. Comme les autres portent leurs problèmes comme des problèmes nationaux, nous on devait aussi apprendre les choses comme des problèmes nationaux et non des problèmes de partis politiques.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que la poursuite a donné à l'opération conjointe, comme vous le dites, qu'elle pourrait se poursuivre même sans l'apport des troupes rwandaises? Vous pensez que cette fois-là, ça serait ensemble avec le Parlement que vous allez en discuter?
Je ne sais pas ce que l'honorable voudrait. Est-ce que les députés mettent des uniformes et qu'ils viennent au front? Moi, je ne sais pas. L'information a été donnée par le président de la République aux députés. Je ne sais pas, et aux sénateurs, par le canal des deux chefs de ces corps. Je ne sais pas ce qu'on doit faire de plus. S'ils veulent prendre des armes et aller au front, ça c'est lui qui doit préciser sa pensée. Nous avons fait ce qu'il fallait. On a informé la représentation nationale en choisissant soigneusement le moment où cette information devait être donnée en tenant compte des nécessités de l'efficacité d'une action. Et il nous a accusés de ne pas bien communiquer. Je laisse vos auditeurs juger de cela. Si ce gouvernement ne communique pas, alors je ne sais pas ce que le mot communiquer veut dire. En tout état de cause, le bilan que j'ai confirmé a déjà été donné depuis hier par notre gouvernement, répété ce matin. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas d'auditeurs ici à Kinshasa qui écoutent une radio rwandaise pour avoir appris chez les Rwandais. Vous avez repris des chiffres que nous avons déjà donnés, les Rwandais aussi sans doute, je les ai confirmés. Je ne sais pas pourquoi l'honorable croit que le fait que j'ai confirmé cela indique que je n'ai jamais donné cette information. Peut-être qu'il n'a pas écouté toutes les radios, il aurait appris que c'était ce bilan a bel et bien été donné. Nous suivons cela au jour le jour.
Monsieur le ministre, pardon.
Sympathie pour les victimes. Sympathie pour les victimes, c'est quand même grave. Vous dire que nous n'avons pas de sympathie pour les victimes.
Oui.
Alors que nous déployons tous nos ministres, jour et nuit. Le premier ministre lui-même s'y est rendu. Le président s'apprête à s'y rendre pour distribuer de l'assistance à tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont dans le besoin à cause de cette guerre.
Oui.
Et en tout état de cause, la première sympathie pour les victimes, c'est de chasser ceux qui les tuent.
Oui.
C'est ce que le gouvernement est en train de faire.
Oui, monsieur le ministre, puisqu'on est pratiquement à la fin de l'émission, mais juste une petite précision. Où sont les 2600 non-combattants qui sont rendus à la force conjointe RDC au Rwanda? Ils sont où, ces non-combattants?
Mais certains sont déjà en train d'être rapatriés. D'autres sont entre les camps de rassemblement et Goma, d'où ils partent vers le Rwanda. Parce que nous mettons plus l'accent maintenant sur le rapatriement, plus que sur la relocation.
Merci.
Donc, ils sont là. Au sud Kivu, je crois que la MONUC a déjà commencé les accompagnements vers chez eux. Et donc, l'opération a réussi.
Merci, monsieur le ministre.
Et pour Cyprien, j'aimerais dire un mot. Si
très rapidement.
Mettre un élève de l'air.
Très rapidement.
Il n'a pas à le faire. Il n'avait pas à le faire sans être dans l'armée.
Merci.
Il n'y a que l'armée qui fait ces opérations-là. Et dire qu'on peut dire au élève de l'air de l'armée sans couler le sang.
C'est un
miracle qu'il cherche.
On
n'est pas Dieu pour faire des miracles.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Si la fin de cette émission à Lengol était à la mise en onde, réalisation de Claude Kianza, Guy Maté, Magali et Aurélie, merci de nous avoir suivis. Thank you.